Bon, je suppose que la plupart d'entre vous ici aujourd'hui, vous croyez en Dieu. Et je suppose que si c'est le cas, vous êtes aussi intéressé de savoir comment vous pouvez mener votre vie d'une manière qui lui plaise à Dieu, n'est-ce pas? Alors réfléchissons-y un instant. Il y a un être suprême et transcendant qui gouverne cet univers, qui dirige toute chose vers un certain but selon son plan souverain. Ce serait quand même bien de savoir si on est du bon côté de cette histoire, non? Et beaucoup de gens dans notre monde présupposent qu'ils ont la faveur de Dieu parce qu'ils se disent croyants, par exemple, ou chrétiens, ou protestants, ou catholiques, ou parce qu'ils vont à l'église de temps en temps, ou parce qu'ils ont un certificat de baptême rangé quelque part dans leur grenier. Il y a des gens qui présupposent qu'ils ont la faveur de Dieu parce qu'ils sont peut-être très engagés dans des œuvres sociales, ou parce qu'ils ont fait de longues études, ils sont très intelligents, peut-être parce qu'ils sont très riches, ou peut-être parce qu'ils sont très pauvres, ou parce qu'ils s'adonnent corps et âme à une pratique religieuse, etc., etc. Le problème, c'est qu'on peut cocher toutes ces cases et quand même se trouver du mauvais côté de l'histoire de Dieu. C'est même pire que ça, en fait. On peut vivre une expérience apparente de conversion, faire une profession de foi tout à fait évangélique, s'engager dans une église pendant plusieurs années, et quand même faire naufrage en ce qui concerne la foi, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, qu'il applique d'ailleurs à un certain Alexandre. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous faire peur. C'est plutôt pour éveiller notre vigilance et pour nous encourager à faire très attention à la leçon du texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier. Vous allez voir que ce texte, en effet, nous parle de la façon dont Dieu écarte de son projet des gens qui étaient pourtant convaincus d'avoir sa faveur. Et le problème que ce texte va pointer chez ces gens, le problème qui les a conduits à leur perte, c'est un problème que nous avons tous, vous et moi, compris. C'est le problème de notre cœur présomptueux. Le problème de notre cœur présomptueux. C'est-à-dire que nous faisons tous face à cette tentation qui consiste à avoir une confiance excessive en nous-mêmes et à présumer que nous avons raison et que nous marchons dans la vérité. À présumer cela. Et c'est un vrai problème parce que cette tendance, si on lui lâche la bride, si on la laisse nous mener à son terme, peut nous aveugler, nous endurcir, nous dessécher spirituellement et nous faire, en fin de compte, encourir le jugement de Dieu. Donc oui, c'est du sérieux. Oui, c'est du sérieux. Heureusement, ce texte ne fait pas que nous montrer le problème, vous allez voir, il nous conduit aussi vers le remède en nous faisant considérer quelle est en fait la piété que Dieu attend de nous. Le texte nous met devant trois questions successivement, vous les avez dans le feuillet, la question de la foi, la question de l'autorité et la question des fruits, pour nous aider, nous aujourd'hui, à examiner notre piété et notre relation avec Dieu, tout cela pour nous adresser ce message. Attention à ne pas finir comme le figuier desséché. Attention à ne pas finir comme le figuier desséché. Alors vous dites, quel figuier? Bon, bah, regardons le texte, vous allez voir. Matthieu chapitre 21, partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Je vous ai dit il y a quelques semaines que j'avais perdu ma Bible, alors maintenant j'ai une Bible que j'avais déjà auparavant, mais c'est une version un peu plus ancienne. Donc vous serez peut-être surpris par le langage un peu vieilli à certains moments de ma lecture, mais je pense que vous avez des versions peut-être différentes, vous allez pouvoir suivre dans votre Bible. Vous verrez, c'est la même histoire. Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit: « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Voici pour la lecture de la parole de Dieu. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole. Tu as daigné te révéler à nous, par tes prophètes, par tes apôtres, par ton Fils Jésus-Christ. Nous avons maintenant cette révélation consignée dans ces textes, que sont l'Écriture sainte, et c'est une chance que nous avons de pouvoir l'ouvrir maintenant même, la lire ensemble, l'étudier ensemble. Seulement, toutes ces choses seraient vaines si tu ne nous aidais pas, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à comprendre ce que toi-même veux nous communiquer. Alors, Seigneur, instruis-nous, s'il te plaît, de manière efficace et fructueuse. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Attention à ne pas finir comme le figuier desséché. Comment éviter de finir comme le figuier desséché ? C'est-à-dire, comment éviter que notre cœur présomptueux finisse par nous exclure du projet de Dieu ? Eh bien, trois choses. Premièrement, la foi, c'est pas forcément ce que tu crois. La foi, c'est pas forcément ce que tu crois. Alors, ce qui se passe au début de ce texte, versets 18 à 22, est un peu curieux. Vous l'avez peut-être remarqué à la lecture de ce texte. Et si vous avez trouvé ça curieux, vous êtes en bonne voie. C'est fait exprès. C'est fait exprès. On est censé être assez éberlué à la lecture de ces quelques versets où c'est un peu bizarre ce qui se passe. Jésus semble s'emporter contre un pauvre figuier qui ne porte pas de fruits et où ensuite il va faire cette affirmation très péremptoire au sujet de la foi. Apparemment, si vous avez la foi, vous savez quoi ? D'après la Bible, vous pouvez déplacer des montagnes et même obtenir tout ce que vous demandez par la prière. C'est quelque chose que Jésus a d'ailleurs déjà dit dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17, une affirmation qu'il a déjà faite. Vous êtes étonné de cette affirmation ? C'est très bien. C'est très bien parce que c'est exactement le but de Jésus et le but du texte à cet endroit du récit. Le texte est censé frapper notre esprit. Il est censé en quelque sorte faire sonner notre radar. nos antennes devraient vibrer quand on lit ces versets et une sirène devrait retentir en nous. Mais quoi? Comment? J'ai bien entendu. Tu peux répéter? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est quoi cette histoire bizarre? Quel est le sens de ce pauvre figuier maudit par Jésus? Il y a des commentateurs qui font remarquer que, en plus, a priori, c'était même pas la saison des figues, donc il n'avait pas de raison de s'attendre à voir des figues sur ce figuier. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation péremptoire au sujet de la foi? Finalement, quand on arrive au verset 22, après ces quelques versets, à la fin de ce petit épisode, il y a une question qui devrait s'imposer à nous. Et le texte n'est pas tant en train de nous mettre face à une leçon particulière que face à cette question particulière. Et c'est la question de la foi. C'est la question de la foi. C'est la question qui est soulevée en réponse, en fait, à la question des disciples. Comment ce figuier a-t-il pu sécher? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quel est, selon Jésus, l'élément décisif qui, d'après lui, peut faire qu'on va dessécher des figuiers comme lui, qui va faire qu'on pourra déplacer des montagnes et même, d'après Jésus, recevoir tout ce qu'on demandera par la prière? Quel est l'élément décisif? La foi, dit Jésus. C'est la foi. Dans ce cas, la question, évidemment, c'est la suivante. C'est quoi la foi? J'aimerais bien la voir. Alors, c'est quoi la foi? Alors, notons bien que le texte ne répond pas ici explicitement à cette question. La fonction de ce passage est surtout de soulever la question pour nous rendre attentifs à ce qui va suivre. Dans la suite, en effet, on va apprendre beaucoup de choses concernant la vraie foi. On va aussi comprendre un peu mieux pourquoi Jésus a maudit ce pauvre figuier qui n'avait rien demandé à personne. Et on y viendra dans un instant. Mais il y a au moins une chose ou deux qu'on peut dire avant d'aller plus loin. Quand Jésus emploie le mot « foi », dans ce passage, il n'emploie pas un mot qui est inconnu de ses interlocuteurs. Et qui, c'est pas un mot inconnu du lecteur de la Bible non plus. C'est un mot qui désigne une confiance docile en Dieu. C'est-à-dire une confiance humble et obéissante en Dieu. C'est-à-dire le fait de s'en remettre à Dieu en étant convaincu qu'il est plus intelligent et plus fort que nous, et le fait d'agir en conséquence. Le fait de s'en remettre à Dieu en étant convaincu qu'il est plus intelligent et plus fort que nous, et le fait d'agir en conséquence. Alors parfois on lit ce type de passage et on a l'impression que la foi, c'est une sorte de pensée positive, ou une sorte de puissance psychique, vous savez. Et quand on examine certains mouvements prétendument chrétiens, on a l'impression que c'est ça la foi pour eux aussi. Si seulement tu le croyais vraiment, si seulement tu doutais pas, tu serais guéri de ton cancer. Baliverne, c'est pas ça la foi au sens biblique. En réalité, la foi, ce n'est pas le fait de solliciter Dieu avec l'intention et la conviction qu'il va accomplir nos désirs. Mais la foi, c'est le fait de solliciter Dieu avec l'intention et la conviction qu'il va accomplir ses désirs. La foi, au sens biblique, est résolument tournée vers Dieu, vers sa volonté, vers ses projets à lui. Quand on a une confiance docile en Dieu, ce qui nous préoccupe plus que notre projet personnel, c'est le projet de Dieu. Avoir la foi et ne point douter, l'expression qu'on trouve au verset 21, ça veut dire être entièrement consacré à Dieu. Douter en grec, c'est un mot qui veut dire être partagé, être divisé. Donc avoir la foi et ne point douter, c'est être entièrement consacré à Dieu et donc souscrire complètement à sa volonté. Avoir la foi et ne point douter. Souscrire complètement à la volonté de Dieu. Par conséquent, dans la mesure où, suivez bien, dans la mesure où, 1, Dieu compte notamment déplacer des montagnes pour réaliser ses projets, au sens figuré, déplacer des montagnes, c'est-à-dire faire des choses, semble-t-il, impossibles pour réaliser des projets, et 2, dans la mesure où Dieu compte accomplir sa volonté, notamment par le moyen de nos prières, eh bien, tout ce que nous demanderons avec foi, c'est-à-dire en conformité avec le projet de Dieu, nous l'obtiendrons. Si vous étiez un agent de police chargé de démanteler un réseau de terroristes, au nom de la loi, eh bien, l'État vous promettrait sans doute de vous donner les moyens de le faire. On vous dirait peut-être, eh bien, tout ce que vous demanderez pour le compte de cette mission, vous le recevrez. Vous pourriez appeler sur votre téléphone portable, le numéro spécial, la ligne rouge, n'est-ce pas, et obtenir le soutien d'un hélicoptère, par exemple, pour pourchasser les méchants. Mais si vous faisiez cela, la même manipulation sur votre téléphone, ça ne veut pas dire que vous pourriez obtenir cet hélicoptère pour emmener votre enfant à l'école parce qu'il est en retard. Vous comprenez la différence? De la même façon, la foi, c'est une confiance docile en Dieu qui souscrit complètement à sa volonté, qui s'attache à sa mission. La foi est résolument tournée vers Dieu et non vers nous-mêmes, vers ses projets et non vers les nôtres. On va y revenir à ça dans un instant. Comment éviter que notre cœur présomptueux finisse par nous exclure du projet de Dieu? Premièrement donc, la foi, c'est peut-être pas ce que tu crois. Mais deuxièmement, l'autorité de Dieu est évidente, mais est-ce que tu te rends à cette évidence? L'autorité de Dieu est évidente, mais est-ce que tu te rends à cette évidence? On regarde la suite du passage à partir du verset 23 maintenant, verset 23 à 32. Après avoir soulevé la question de la foi, maintenant le texte soulève la question de l'autorité. Il y a dans le passage ici un échange intéressant entre Jésus et les responsables religieux de Jérusalem. Un échange où les responsables religieux demandent à Jésus « Mais par quelle autorité est-ce qu'il enseigne celui-là? Et par quelle autorité enseigne-t-il dans le temple? Et par quelle autorité accomplit-il des miracles ?» La réponse de Jésus est très habile. Et cette réponse révèle qu'en vérité, ces gens connaissent déjà la réponse, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils savent très bien que Jésus prétend agir au nom de Dieu. L'autorité invoquée, c'est donc celle de Dieu. Comme ils savent très bien aussi que Jean-Baptiste est venu dans la voie de la justice, pour reprendre l'expression du verset 32. Et ils savent très bien que Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus comme étant le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui devait venir. Cela, on l'a vu plus tôt dans l'évangile de Matthieu. Jésus, par sa réponse, il est donc en train de mettre ses responsables religieux face à leur propre mauvaise foi et face à leur propre endurcissement. La question est bien celle de l'autorité, mais la question n'est pas tant de savoir par quelle autorité Jésus fait ces choses, puisque la réponse est déjà évidente, mais plutôt de savoir pourquoi les interlocuteurs de Jésus ne se rangent pas à cette autorité. Ils savent quelle est cette autorité. Pourquoi ils ne se rangent pas à cette autorité? La réponse? Leur cœur présomptueux. Leur cœur présomptueux. Alors il y a un truc que j'ai remarqué chez mes enfants, qui était sans doute aussi caractéristique de ma vie quand j'étais enfant, peut-être ma mère pourra en témoigner tout à l'heure. C'est peut-être quelque chose qui est encore caractéristique de ma vie aujourd'hui d'ailleurs. Parfois, les enfants sont convaincus d'avoir raison, même quand on les confronte à l'évidence. Parfois, on a ce type de conversation à la maison. Attends. J'ai enlevé les noms. Attends, tu es en train de me dire que tu ne crois pas cette personne qui a pourtant vécu 5 fois plus longtemps que toi, qui a obtenu 3 doctorats et qui a écrit 12 livres sur le sujet. Tu ne penses pas qu'il est mieux placé que toi pour en parler? Oh, bah si. Mais tu penses quand même avoir raison? Bah oui. Alors je ne comprends pas toute la psychologie qu'il y a derrière ce genre d'attitude, mais ce qui est certain, c'est que lorsque cela se traduit au niveau spirituel, c'est très dangereux. Regardez le texte de nouveau. Dans la parabole des 2 fils, celui qui est désobéissant, c'est celui qui reconnaît l'autorité du Père, mais qui refuse d'en tirer les conséquences. Fais cela. Oui, papa, mais il ne va pas le faire. Il reconnaît l'autorité du Père, mais il refuse d'en tirer les conséquences. Il refuse d'agir en conséquence. Le message qui nous est adressé ici, c'est le suivant. Si nous nous disons croyants, et j'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre nous ici, si nous nous disons chrétiens, si nous avons été baptisés, si nous venons régulièrement à l'église, tout cela sous-entend que nous reconnaissons l'autorité de Dieu. Là n'est donc pas la question. La question est, est-ce que nous en tirons vraiment les conséquences? Un pasteur pourrait vous dire un jour, écoute, tu ne devrais pas avoir cette relation amoureuse avec ce non-chrétien. Et vous pourriez lui répondre, mais pour qui tu te prends pour me dire ça? Sous-entendu, par quelle autorité? Et si ce pasteur était inspiré par Jésus, il vous dirait peut-être, Laisse-moi te poser une question d'abord. La Bible, d'où vient-elle? De Dieu ou des hommes? Sous-entendu, la réponse à ta question est évidente. La réponse à ta question est évidente. Tu sais très bien par quelle autorité je te dis cela. Je prétends te parler sur la base de l'autorité de la parole de Dieu. Tu le sais très bien, mais est-ce que tu veux l'admettre? Vous voyez ce qu'on appelle le nominalisme, c'est-à-dire le fait de se dire chrétien sans en tirer vraiment les conséquences. Le nominalisme, donc, peut nous exclure du projet de Dieu. Alors que les gens qui ne se disent pas chrétiens, ne sont pas concernés par le nominalisme, ils ne se disent même pas chrétiens, mais qui entendent l'appel du Seigneur un jour, qui lui demandent pardon et qui se rangent à cette autorité, eux sont accueillis à bras grands ouverts dans le royaume de Dieu. Et ça aussi, on va y revenir dans un instant. Comment donc éviter que notre cœur présomptueux finisse par nous exclure du projet de Dieu? Bien, premièrement, on l'a dit, la foi, c'est pas forcément ce que tu crois. Et deuxièmement, l'autorité de Dieu est évidente, mais est-ce que tu te rends à cette évidence? Troisièmement et dernièrement, si tu t'attaches à Jésus, ta vie peut porter les fruits de Dieu. Si tu t'attaches à Jésus, ta vie peut porter les fruits de Dieu. Alors, vous voyez, Jésus, au verset 33 et jusqu'à la fin, là, il raconte une deuxième parabole où il est question, cette fois, d'ouvriers qui travaillent pour le compte d'un maître dans le vignoble du maître. Le problème, c'est que ces ouvriers empêchent le maître de récupérer le produit de la récolte au point même de tuer les serviteurs du maître et même, en fin de compte, de tuer son fils qui est l'héritier. Dans un sens, ils veulent détourner le produit de la récolte et le garder pour eux ou en faire un autre usage que le rendre au maître. Le sens de la parabole est évident. On l'a dit tout à l'heure, d'après l'Ancien Testament, la vigne, c'est une image bien connue des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament, la vigne représente le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu lui-même incarne le projet de Dieu pour la rédemption du monde. Les ouvriers ou les vignerons qui travaillent dans la vigne de Dieu, ce sont les responsables du peuple qui, au fil de l'histoire biblique, depuis pratiquement le début, ont systématiquement rejeté les prophètes que Dieu leur a envoyés, c'est-à-dire ses serviteurs dans la parabole, et qui ont fini par rejeter le Messie lui-même, le Fils de Dieu, au point de le faire mourir, n'est-ce pas? On connaît l'histoire. Cette pierre rejetée par les bâtisseurs, dans la suite du texte ici, était pourtant bien la principale. Et par la providence de Dieu et selon son dessein éternel, c'est précisément par sa mort que Jésus a accompli sa mission en tant que Messie, qui consistait à délivrer le peuple de ses oppresseurs et à le réconcilier avec Dieu. On en parlait déjà assez longuement il y a quelques semaines. En effet, les hommes étaient captifs du péché, prisonnier du péché, en proie à la mort, vous et moi compris. Nous étions séparés spirituellement de Dieu, mais Jésus, le Messie, a pris sur lui, sur la croix, tout le poids de nos fautes, des fautes de son peuple. Il a détourné sur lui-même le châtiment divin destiné au péché du peuple de Dieu. Il a absorbé en quelque sorte la colère de Dieu. Il a englouti les péchés des croyants dans sa mort. Il les a laissés dans la tombe, les péchés, et ensuite il est ressuscité triomphant et glorieux. De telle sorte qu'aujourd'hui, tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui ont cette confiance docile en Jésus-Christ, tous reçoivent le pardon total et définitif de Dieu et sont réconciliés avec lui pour toujours. La pierre qui a été rejetée était en fait la principale et elle est même devenue manifestement la pierre principale, celle de l'angle, par cette résurrection glorieuse, par son ascension auprès du Père. C'est sur cette pierre que la vie du croyant doit être construite, mais pas seulement la vie individuelle de croyant, c'est aussi tout le projet de Dieu pour le monde qui est construit sur cette pierre d'angle qu'est le Seigneur Jésus, ressuscité, glorifié, et exalté. C'est pourquoi on peut dire que la chose la plus déterminante dans la vie d'une personne aujourd'hui, la chose la plus déterminante dans la vie d'une personne aujourd'hui, c'est sa relation à Jésus. Est-ce que Jésus est la pierre d'angle de ta vie ou est-il une pierre d'achoppement? Est-ce que tu as pleinement foi en lui C'est-à-dire, est-ce que tu souscris pleinement à sa volonté? Est-ce que tu es résolument tourné vers lui et vers ses projets? Est-ce que tu t'attaches à sa mission, à la mission de Jésus-Christ? Est-ce que tu te rends à l'évidence de son autorité divine? Est-ce que tu es prêt sans réserve à tirer les conséquences de ton allégeance présumée à Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à le suivre et à tirer de lui la sève vivifiante qui te fera porter du fruit pour le compte de Dieu, qui est le maître de la vigne, qui est celui qui gouverne l'histoire, qui a un plan et qui est en train d'accomplir son plan selon son dessein bienveillant? Ou bien es-tu partagé? Est-ce que tu te dis croyant, mais en même temps tu préférerais que la foi serve tes intérêts plutôt que les intérêts de Dieu? Est-ce que tu as conscience de l'autorité de Jésus, mais en même temps tu refuses de te ranger à cette autorité parce qu'elle implique de ta part que tu te repentes et que tu changes la direction de ta vie dans certains domaines au moins? Est-ce que ton cœur présomptueux te fait trébucher sur Jésus? Est-ce que ton cœur présomptueux te fait trébucher sur Jésus? Imaginez cette pierre, cet énorme bloc de granit magnifiquement taillé et poli, posé au milieu du chemin, et vous êtes en train de courir en sa direction. Et Dieu vous dit, écoute Chantal, écoute Françoise, écoute Philippe et Bernard, mon projet pour toi, c'est pas que tu cours dans tous les sens au gré de tes passions, de tes désirs et de tes intérêts personnels. Mon projet, c'est que tu construis sur cette pierre-là qui est en face de toi, que tu construises un édifice solide, magnifique, au profit du monde et pour ma gloire. Mon projet, c'est que tu t'attaches à Jésus et que tu portes du fruit en étant attaché à Jésus. Et cette pierre est là, en travers de ton chemin, ce bloc inamovible de granit taillé, poli, poncé. Et si tu t'arrêtes pas, et si elle ne devient pas pour toi la pierre d'angle de ta vie, un jour tu vas lui rentrer dessus et c'est pas la pierre qui sera abîmée. Et vous voyez ce qui est arrivé à ces responsables religieux auxquels Jésus s'adresse dans ce passage. Vous voyez ce qui est arrivé, ces responsables religieux, ils se disent croyants. C'est les meilleurs croyants de la société, hein. Enfin ça c'est ce qu'ils pensent, hein. Ils sont convaincus d'avoir la faveur de Dieu, ils pensent être du bon côté de l'histoire. Ils sont à certains égards très consacrés à la pratique de leur religion. Et pourtant Jésus leur dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et cette prédiction de Jésus, ce jugement, se sont réalisés dans l'histoire lorsque Dieu a ouvert grand les portes de son royaume aux nations non-juives qui s'y sont engouffrées en nombre incalculable depuis 2000 ans, au détriment du peuple d'Israël dont le cœur, de façon générale, s'est endurci contre Dieu et contre son Messie. Mais il y a là aussi un avertissement qui nous est adressé. Comme le dit l'apôtre Paul dans un autre passage du Nouveau Testament, dans l'épître aux Romains, chapitre 11, il dit ceci, il dit « Les branches naturelles, et par cette expression il désigne les Israélites, il désigne le peuple d'Israël, les Juifs de son époque, les branches naturelles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, sous-entendu, toi qui n'es pas juif, mais qui crois en Jésus, toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Vous voyez, elle est là, en fait, la leçon du figuier desséché. Jésus s'est pas approché du figuier pour en recueillir... Jésus s'est approché du figuier, il s'est approché du figuier pour en recueillir le fruit, mais il n'y en avait pas. Jésus a maudit le figuier, non pas parce qu'il aurait eu un accès de colère, de frustration, non pas parce que c'était un méchant figuier, comme si les figuiers pouvaient avoir un quelconque sens moral. Non, Jésus a maudit le figuier en guise de signe prophétique. Il a capté ainsi l'attention de son auditoire, comme d'ailleurs l'auteur de l'évangile, ici, Matthieu le fait de ses lecteurs. Il a capté l'attention de son auditoire pour nous livrer ensuite cette leçon extrêmement importante. Oui, Dieu peut nous écarter de son projet, alors même que nous sommes convaincus d'avoir sa faveur. Et pourquoi? Eh bien, en raison de notre cœur présomptueux. Si on lui lâche la bride à ce cœur présomptueux, eh bien, il peut nous aveugler, nous endurcir, nous dessécher spirituellement et nous faire encourir à la fin le jugement de Dieu. Heureusement, ce texte nous a conduit aussi à avoir le remède à cela en nous posant les bonnes questions. D'abord, celle de la foi, qui n'est pas forcément ce que nous croyons, mais qui est une confiance docile en Dieu, qui souscrit sans réserve à ses projets. La question, deuxièmement, de l'autorité de Dieu, qui est évidente, mais est-ce que nous nous rendons à cette évidence? Est-ce que nous manifestons que Dieu est maître par notre repentance et par notre obéissance à ses voies? Et troisièmement, la question des fruits de Dieu que notre vie peut porter si nous nous attachons à Jésus, celui qui a été rejeté, maltraité, humilié, abandonné, abusé et crucifié pour le pardon de nos péchés, mais qui est ensuite ressuscité comme cette pierre d'angle solide, inamovible, sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie de manière fructueuse. Mettons à mort l'orgueil et la suffisance qui remplissent si facilement notre cœur, n'est-ce pas? Faisons-le pour ne pas finir comme le figuier desséché. Au contraire, portons du fruit pour Dieu sous l'effet de sa grâce qui agit en nous par la foi, comme le dit Jésus. Si vous demeurez en moi, dit-il, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Prions. Nous te remercions, notre Dieu, pour les avertissements contenus dans ta parole. Nous avons besoin de les entendre car nous sommes pécheurs et en proie à ces tendances mauvaises, les tendances de la chair. Tu vois, Seigneur, l'orgueil, la suffisance qui remplissent notre cœur si facilement. Combats ces choses pour nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Aide-nous à mettre à mort ces passions, ces désirs, ces tendances en nous. Et aide-nous à construire notre vie sur la pierre d'angle, sur le fondement unique qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen.